9h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les meufs. Pardon, excusez-moi, j'ai mon chien qui a vomi dans mon cartable ce matin.
Oh et on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour des sous-sous, des titifs, des sous-tifs.
Voilà, alors peut-être c'était pas la peine que je vienne si tôt alors.
Ah bah si, pourquoi?
Bah je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes dans une conversation typiquement féminine.
Alors éclairons, Guillaume. C'est quoi une conversation typiquement féminine?
Bah je sais pas, basique quoi. Mec, règle, sous-tif. Voilà.
Sainte Simone de Beauvoir, protège-moi de ma propre violence.
Écoute bien, Guillaume. On reçoit Suzy Morgenstern, ok? La star de littérature jeunesse. Et son livre, c'est Soutif, donc tu vas faire un petit effort, tu vas t'adapter.
Ok, ouais, ok. Voilà.
Et toi, Juju, tiens, t'as quel souvenir de ton premier soutif au
fait? Ça devait être la semaine dernière, non?
Oh, putain, Sainte Virginie des Pentes, retiens-moi, je te jure.
Alors, oui, c'est vrai, Guillaume, que je l'ai attendu assez longtemps, mon premier soutif. On va dire qu'il n'y avait pas exactement un caractère d'urgence.
Voilà. C'est un moment important dans la vie d'une fille.
Oh là là, ben moi, par exemple, je ne me rappelle pas de mon premier caleçon.
Oh,
hein,
mon Dieu.
Je dirais même que je m'en fiche comme de mon premier slip.
Ouais. Peut-être le mieux, c'est que tu gardes profil bas pendant l'émission.
Pas question. Moi, je connais quand même, parce que des soutifs, j'en ai enlevé un certain nombre, si vous voyez ce que je veux dire.
Oh là là, Sainte Sandrine Rousseau, empêche-moi.
Non, n'empêche rien, je vais me le faire.
Bah, mais dis donc, c'est joli, c'est de la dentelle de Calais.
Bagarre. France Inter et bienvenue chez les coreligionnaires de la subversion radiophonique,
là là.
Comme le disaient des proches, puisqu'ils nous écoutent. voici la devise, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de variant. Voici le sommaire, la réponse de nos dirigeants à la mort de 27 réfugiés dans la Manche. C'est une dispute diplomatique entre Macron et Johnson et une réunion symbolique à Calais sans inviter l'Angleterre. Face à tant de cynisme, pensons positif. Pensons à ceux qui parviennent à atteindre les eaux territoriales anglaises.
Hello, elle est froide ce matin, n'est-elle pas?
Demain, officiellement, Joséphine Baker deviendra une grande femme. Oui, c'est étrange comme formulation, mais comme le Panthéon n'ouvre ses portes reconnaissantes qu'aux grands hommes, on peut supposer qu'il en va de même pour les femmes. Sinon, quelle autre spécificité pour faire partie des élus?
Faut être Mère Teresa avec la carrière de Bill Gates et le cul de Beyoncé.
Cette année, le président de la République a décrété la lecture grande cause nationale.
Ouais.
Donc, si c'est comme pour les femmes, c'est foutu. Hein, je te dis, non. Alors, heureusement, le salon du livre jeunesse de Montreuil s'ouvre mercredi.
Oui, Notre-Dame de Paris, ça je connais. C'est une comédie musicale.
Voilà. Cause nationale. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et à nos côtés, Charline, et en l'honneur de notre invité, une équipe de jeunes pousses. Il y a eu les kids de Minneapolis et de Cincinnati. Voici le kid de Vichy. Ouais, ça sonne moins sexy, mais il a les épaules pour relancer la hype de tout le département de l'Allier. Bonjour Djamil Lechlag.
Bonjour tout le monde.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, Djamil?
De Marseille.
Rien à voir avec Vichy, génial. Ensuite, ne vous fiez pas à sa chevelure d'argent. Sous elle, il y a l'équivalent du petit Nicolas avec un micro. Alors le petit Nicolas en encore moins sage, encore plus de parti pris et détenteur d'un Doug en gainage. Coucou Guillaume Meurice.
Bonjour à tout le monde, je vais vous parler justement du petit Nicolas, le petit Nicolas Hulot.
Aïe.
Et donc je vais vous parler plus largement des violences sexistes et donc de quoi?
Les féministes qui sont moches, pas intelligentes, qui parlent salement.
Voilà. Tout ça quoi.
Bien.
Sainte Simone de Beauvoir, protégez-moi. Et enfin, Junior, celui qu'on appelle Junior, puisqu'il est non seulement la dernière recrue de Par Jupiter, mais également un des plus jeunes d'entre nous. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, n'est-ce pas, Léo Carman?
Bonjour.
Bonjour, de quoi vous allez nous parler, vous?
D'univers parallèle et de...
Ouais, trop bien. J'ai l'impression que c'est une chronique cinéma.
J'ai l'impression.
Et voici celle qui est venue avec son soutif sous le bras, donc. Hein, je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Suzy Morgenstern, et je l'ai mis exceptionnellement aujourd'hui.
Charlie Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue, Suzy Morgenstern. Alors, vous mettez pas un soutif tous les jours, alors? C'est ça que
mais
vous nous dites?
Non.
Pour les grandes occasions, comme aujourd'hui.
Ouais, juste quand je viens par Jupiter.
Ah, d'accord. Suzy, vous publiez Soutif chez Gallimard Jeunesse. Pauline a deux frères, des parents très occupés, une grand-mère 68arde qui, semble-t-il, elle a brûlé son soutif, voilà. Et donc, le jour où Pousse, vous écrivez deux petits tas de sable sur une plage déserte, Pauline, elle panique un petit peu et elle finit par voler des soutiens-gorge. Ce qui l'amènera à faire une rencontre décisive parce qu'au fond, c'est un livre sur l'amitié aussi. Alors, Suzy, vous confiez volontiers que vous avez toujours 14 ans dans votre tête. Vous avez écrit
entre
10 et 14 ans. C'est comme ça que vous écrivez vos romans jeunesse. Vous êtes la star du roman jeunesse. Ici, vous vous êtes souvenu, l'écrivaine qui a entre 10 et 14 ans dans sa tête, s'est souvenue de son premier soutif. C'est comme ça que c'est venu.
Mais j'en avais vraiment le choix parce que j'ai eu tous les héritages de mes grandes sœurs. Et je les mettais, avec des chaussettes dedans. Et c'était un moment qu'on attendait pendant toute l'enfance.
Ah oui, parce que vous aviez des grandes sœurs, donc c'était plus facile pour vous alors.
C'était...
Que par rapport à Pauline, votre héroïne qui a des frères et qui est perdue à l'âge de mettre un soutien-gorge.
C'était naturel et facile, mais j'avais des vieilles loques, jamais de jolies. J'avais toute ma vie que des, ce qu'on appelle en anglais, des hand-me-downs, des héritages. Et j'ai jamais rien eu de neuf, vous pouvez pleurer. Et jusqu'à ce jour, je n'aime que des vieilles habits.
Les fripes du soutif, quoi.
Ouais.
Ah, d'accord.
Des fripes de tout.
Mais alors, comment est-ce que vous vous êtes mis dans la peau de cette adolescente qui, elle, est perdue parce qu'elle n'a pas des grandes sœurs pour lui prêter des soutifs ou poser des questions sur comment on fait pour connaître la taille, le bonnet, parce que c'est une équation, hein, cet âge-là.
Tout ça est très mystérieux. Je sais pas trop réfléchir. Ouais. C'est tout par instinct. Je sais pas. J'étais dans sa peau pour l'écriture du livre. Bah, mais
écoutez,
comment?
Parce que moi qui suis fille unique et pas de sœur, je me suis un peu reconnue là-dedans devant cette côté où, comment on fait? Ah ouais. Juliette, vous avez une question ?
Oui, en général, les auteurs jeunesse, quand ils traitent de la puberté, et l'arrivée de la poitrine fait partie de la puberté, ils en parlent souvent sur un ton dramatique, comme d'un cataclysme horrible, où tout le monde est très malheureux. Vous avez choisi de faire un petit pas de côté par rapport à ça, et Soutif raconte une histoire très joyeuse, où tout à coup, ça permet à Pauline de créer des nouvelles choses dans sa vie. Vous y mettez ce qu'on, il y a un mot qui est pas traduisible exactement en français, qui est du fun. Et c'est une chose que vous mettez de toute façon dans à peu près tous les endroits de votre vie et dans vos livres en général, y compris quand vous parlez de choses très tristes. Pourquoi?
Mais c'est arrivé avec mon immigration. Je voulais contribuer quelque chose à la France.
Et vous avez exporté le fun.
C'est le fun. Quand l'école des loisirs, Arthur Hubschmidt, mon éditeur, a pris mon premier livre, il a dit chouette, j'aurai l'humour américain sans payer la traduction. Vous me voyez, j'ai des lunettes roses, je vois la vie en rose et je veux communiquer ça. L'humour, c'est, vous le savez parce que vous le pratiquez si bien, l'humour, c'est la distance avec la vie. Mm-hmm. Et c'est vrai que les adolescents n'aiment pas beaucoup l'humour. Si une de mes filles pleurait parce qu'elle a eu une mauvaise note, je disais, ah oui, c'est vraiment grave. C'est grave, ta mère est morte de cancer, il y a la famine, et elle détestait que je fasse l'humour avec leur vie grave et sérieuse. Mais ça, c'est ma sauce à moi.
Ouais, c'est vraiment votre identité. Quel livre, vous avez eu enfant ou adolescente? Quel livre que vous avez lu donc aux États-Unis dans les années 50 a compté pour vous, a compté même dans votre vocation après d'écrivaine?
le livre de tout le monde, Les quatre filles du Dr. Mars.
Oui.
Nous, on était les quatre filles du Dr. Mars. C'est un livre que j'ai lu en boucle. Et puis, c'est Joe, la sœur écrivain, m'a vraiment inspirée. Et une des scènes les plus brutales de toute la littérature pour moi, c'est Amy, la petite peste de sœur qui brûle son manuscrit.
Et
je m'appelle encore. Non, pas ça! bon, d'un côté, les quatre filles du Dr. Mars, et puis d'autre côté, Anne Frank.
Ah oui.
Le journal d'Anne Frank, qui est toujours... Les deux sont toujours sur mon chevet. Mais les quatre filles du Dr. Mars, je l'ai relu il y a... pas longtemps. J'habite Nice et j'ai enseigné toute ma carrière au Parc Valrose, la Fac des sciences de Nice. Et dans ma dernière lecture, je vois que Amy est allée à Nice et s'est promenée dans le Parc Valrose. Je n'avais pas, ça ne m'avait pas frappée à l'époque parce que je connaissais pas Nice, je connaissais pas la France, je connaissais pas le Parc Valrose, mais c'était comme le boucle.
Ouais, vous êtes à la fois Joe et Amy. Donc, ce roman s'appelle Soutif, Suzy Morgenstern. Et c'est vrai que pour les jeunes filles, c'est aussi utile de lire ce roman pour savoir un petit peu comment on fait. Je me dis, après Soutif, le prochain, je suppose, ce sera Tampon, Suzy Morgenstern.
Ouais, c'était chez...
Ouais. Ah, déjà me disais aussi. C'est paru chez Gallimard Jeunesse. Suzy Morgenstern, illustré par Katel Muller, Soutif. Gallimard Jeunesse. On est ensemble jusqu'à 18h à voir la vie à travers les lunettes roses de Suzy. She wore a polka dot dress and some high heel shoes. She was so fine. And all the girlies hated, the fellas wanted to date her. And all I could say to her was, fuck all the haters. I say, fuck all the haters. Let me see you rock, little Sally.
Little Sally. Let me see you pop, little Sally. Let me see you.
Bah, ça, ouais, ça se finit sur le rire de Juliette, bien sûr. Comme tous les lundis et tous les jeudis, on écoutait Bibi Borelli, Sally, sur France Inter. Suzy Morgenstern est avec nous. Et puis, vous connaissez un petit peu l'émission. Il y a des chroniqueurs, Juliette.
Oui, sans soutif. Ouais. Jamil Le Schlag, Théo Kartmann. Voilà. Et pour ce qui concerne Guillaume Maurice, je ne sais pas s'il en porte un ou pas.
C'est ma vie privée, ça ne me regarde pas.
En tout cas, on est tous remasqués en studio, donc on a un slip de bouche. Et derrière ça, on va faire des informations.
Quand j'entends le mot violence policière, moi je, personnellement, je m'étouffe.
Le journal de presque 17h17.
On ne se bidonne pas.
Mais c'est quand même une blague qui donne à penser.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera de Christine Boutin.
Oh, bah ça faisait trop longtemps, elle nous avait manqué, tiens.
Ouais, ouais, bon. Dans ce journal, on parlera aussi de Gérald Darmanin.
Oh, bah ça faisait pas assez longtemps, tiens. Ouais. Il nous avait pas manqué,
non,
lui.
Ça, non. Et enfin, on parlera de Jean-Christophe Lagarde.
Oh, c'est qui?
On enchaîne. Allez, jingle. Ouais. Voilà.
Ah
voilà,
si, voilà. C'est le mec de la machine à café.
Non, c'est le gars de l'UDI en fait.
L'UDI, c'est la marque de la machine à café.
Allez, on y va.
Okay.
On y va.
Allez, on commence par la politique.
Oui, interrogé sur les migrants à Calais, Éric Dupond-Moretti a dit ne pas imaginer la police lacérée des tentes.
Mais non, évidemment. C'est juste que parfois, bah, les policiers, ils trébuchent sur des tentes de migrants. Puis comme ils ont un cutter ouvert à la main, bah, ça fait des trous. Mais c'est vraiment pas de bol, quoi. Faut dire, le terrain est hyper glissant en novembre à Calais.
Vrai,
en fait,
interrogé sur BFM, Gérald Darmanin a affirmé que ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui ont lacéré les tentes, mais une société privée.
Voilà, et c'est pas Gérald Darmanin qui a envoyé des SMS à caractère sexuel à des femmes en échange d'un logement, mais c'est son téléphone. Voilà. Mais ça n'a rien à voir,
En effet, ça n'est pas lui, c'est Orange.
Voilà, alors bien pour résumer...
Oui. Les membres du gouvernement sont des ratures de chiottes.
Non, vous pouvez pas dire ça, Guillaume.
Hein. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la voix de l'ordinateur.
Ah, oui, alors ça va.
Voyez-moi, c'est bon alors. Voilà. Voilà.
Politique encore, c'est ce mercredi que démarre le vote.
Oh là là là, j'ai vu, je tiens plus, je suis hyper excité.
Bon de quoi, hein?
Ah là là, la semaine dernière, c'est Alix qui a été éliminé de Koh-Lanta, c'était hyper tendax.
C'est pas le vote pour Koh-Lanta.
Quoi?
Ce mercredi démarre le vote pour désigner le candidat LR à la présidentielle.
Voilà. Ah! Non, je suis moins chaud là. Non, je suis moins excité.
Toujours. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, a déclaré que le soutien de son parti centriste au candidat LR ne sera pas automatique.
Oh là 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 là, le stress que doivent avoir les Républicains en ce moment. Oh là là là. Et est-ce que l'amicale des jeux de cartes de campagne Les Girolles a déjà donné son soutien au candidat LR ou pas encore?
Je crois pas, non.
Ça change toute la donne. C'est incroyable, le suspense de ma boule. Je tiens pas là.
Et en fin de déplacement à Marseille, Éric Zemmour a adressé un doigt d'honneur en réponse à une femme qui lui faisait également un doigt d'honneur.
Oui, bon, ça va. Hein. C'est pas comme s'il avait dessiné une moustache sur une affiche.
Hein? On enchaîne. Face au variant Omicron, Christine Boutin s'est interrogée sur la ressemblance de ce nom Omicron avec Macron. Et s'est demandé si tout cela n'était pas fait pour qu'on entende ce nom régulièrement jusqu'aux élections.
C'est trop tôt, Christine. On est lundi, tu peux pas nous faire commencer la semaine comme ça. On s'en sortira pas. On trouvera rien de mieux.
D'une battue au sanglier, un chasseur a été tué par
un randonneur.
Non.
Par un vététiste.
Non.
Un lapin?
Non.
Mais si, il y a un lapin qui a un fusil.
Non, par un autre chasseur.
Oui, mais alors non, Charline, dans ce cas-là, on dit pas tué, on dit il a été prélevé.
Ah, c'est juste.
Soyons précis.
Pardon, excusez-moi. Voilà. Bêtise humaine toujours.
Oui.
Depuis l'époque de l'Homo sapiens, le cerveau de l'homme aurait diminué de 150 cm3, soit une balle de tennis.
Oui. Et c'est la faute à la télé-réalité. Je le rappelle, déjà à l'époque, les Néandertals à Cancun, c'était bien débile comme émission. Vas-y, je te chasse le mammouth, je m'embrouille pour un feu mal éteint à la caverne. Oh, qui laisse traîner ses strings comme Pierre?
Je vous propose quand même de passer à la technologie.
Oui.
Ordinateur vous préviendra désormais quand quelqu'un regarde votre écran par-dessus votre épaule.
Oui, c'est très efficace. On l'a testé tout à l'heure quand on écrivait des blagues au bureau.
Alerte. Gad Elmaleh.
Ça marche très bien.
Parfait. Ouais. Merci Guillaume Meurice. Suzy Morgenstern, on va aborder ce premier thème qui vous tient à cœur sur les migrants. Car la France et l'Angleterre se chamaillent sur le dos des migrants. Après avoir critiqué la Biélorussie sur l'instrumentalisation des réfugiés, toute proportion gardée, nos dirigeants européens et anglais ne font pas tellement mieux finalement. Tandis que Gérald Darmanin explique donc que les coups de cutter dans les tentes à Calais, c'est pas les policiers, c'est une société privée. Donc bienvenue au championnat d'Europe du cynisme.
Je vis dans un trou qu'on appelle la jungle. Mais il est où, Tarzan, bande de paltringues? Vous vous demandez pourquoi faire cette voix super grave? J'ai piqué le poème de mon petit frère. Je veux pas qu'on s'en aperçoive. Pour rejoindre l'Angleterre, moi et mes potos, on a une idée super. On construit un radeau. Mais pitié, pas la noyade comme le petit Elan. Déjà, migrant corps malade. Si en plus on se tape Francis Lalanne. Quand j'ai quitté l'Érythrée, je me doutais pas de ce que j'hériterais. Et on parle de nous en tant que flux migratoire. Et ouais, ça dit tout. On s'inquiète plus pour les ferries et l'Eurostar. Un ex-président mis en examen nous a comparé à une grosse fuite d'eau. Pardonnez-le, il n'est pas très malin. Il n'est pas concerné par la fuite des cerveaux.
Frédéric Fromet sur un slam de migrant corps malade. C'était une chanson qu'il avait faite dans cette émission il y a 5 ans déjà. Suzy Morgenstern, comment est-ce qu'on expliquerait à la jeunesse, vous qui écrivez beaucoup pour la jeunesse, que nos gouvernants laissent des gens se noyer? Je sais que c'est un sujet que vous vouliez aborder. Est-ce que vous-même, vous arrivez à trouver les mots? Et peut-être pour les expliquer?
J'aimerais dire à nos dirigeants qu'il y a on dit que quand la bibliothèque du ciel, du paradis, était trop pleine de livres, on faisait toujours la place pour un autre livre. Mm-hmm. Il y avait assez de place pour un autre livre. Et je crois que il y a, c'est pas aux enfants que j'aimerais le dire, c'est aux dirigeants que j'aimerais dire que il y a de la place, on a de la place, on se glisse, on se serre, et il y a de la place. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de pleurer. Oui. Je peux pas expliquer aux enfants ce que je peux pas m'expliquer. Et je Bien ne sûr. Peux vraiment pas me l'expliquer.
Et puis, vous habitez à Nice, donc ça veut dire près de Menton, Vintimille. Est-ce que le problème se pose avec plus d'acuité qu'à Paris? Vous le ressentez?
J'ai rêvé d'aller à Vintimille, à remplir ma voiture avec des migrants et les ramener à Nice.
Ah bah d'accord, ah bah, la passeuse, alors on a invité une passeuse.
J'ai pas eu le courage. Elle m'a dit que je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'ai la Légion d'honneur.
Ah, super. Attendez, ça veut dire que ça sert à quelque chose alors? Elle servirait à quelque chose cette Légion d'honneur?
Mais j'ai quand même peur d'aller en prison.
Ouais.
Et je suppose que je ne suis pas une grande courageuse.
Oh, c'est pas vrai. Mais, déjà de le dire, c'est courageux.
Mais ça me hante, cette idée.
Oui, c'est
d'y
vrai.
Aller et de remplir ma voiture et les amener au Valais de la Roya où il y a des gens courageux.
Oui, comme Cédric Héroux, par
ouais,
exemple.
Exact.
Voilà, bah, écoutez, on a sous 06, si vous voulez passer à l'acte. Et allez, on encourage la passeur. On va couper ça, on va couper la diffusion.
Guillaume, vous pouvez l'expliquer aux enfants? Vous pouvez me souffler la réponse?
Ouais, bon, on coécrira un livre ensemble avec Cédric Héroux, voilà, on va faire ça.
Ne faites pas ça chez vous, hein, vraiment, on vient de dépasser les limites, là, hein, clairement. Suzy, on va aborder le rire, on va regarder encore la vie par vos lunettes roses, si vous êtes d'accord.
Hein. Mais ça, c'est un sujet que je ne vois pas avec des lunettes.
Oui, ça, c'est difficile, je vous l'accorde. À part Frédéric Fromet qui arrive un petit peu à faire sourire, c'est vrai que c'est difficile, hein, on est d'accord. Mais Jamil Le Schlag va nous parler d'un tout autre sujet, rassurez-vous.
Eh les gars, c'est incroyable. La semaine dernière, Éric Zemmour s'est rendu à Marseille. Bon, ben, en termes d'accueil, on a connu mieux. Hein. Les images de son déplacement, ça m'a fait penser à la chanson de rap du collectif Très Organisé. Nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port. Ça va, Jules? Les droits d'auteur, on ne déroge pas, man? Askip, à cause de toi, la SACEM a fait faillite. Alors moi, en rap, je préfère IAM. C'est plus ma génération. 40 ans, sweatshirt, ringard. Mais je dois avouer que le collectif marseillais Très Organisé, c'est pas mal. En tout cas, le séjour de Zemmour, lui, n'était pas très organisé. Ouh! Jeu de mots! Calembour! Patrick Bosso! Perso, j'adore Marseille. À Bonne-Mère, la bouillabaisse, Marcel Pagnol, mais surtout, ces rats de la taille de Larry Bird. Ça va, maître Splinter? Un moment, je me promenais dans la ville et j'ai atterri dans les quartiers nord. Je me suis dit, ah, Bah, c'est donc ça, les territoires perdus de la République. Bon, déjà, pour rentrer, fallait passer un checkpoint. Voilà, la Cisjordanie. Ensuite, il y a un jeune qui me demande mes papiers. Mes papiers? Mais c'est une blague? T'es de la BAC Nord pour me demander ça, tel un cow-boy? Et faut voir le jeune, hein. 16 ans, cheveux longs, chemise ouverte. Maigre, mais gras. On aurait dit mon neveu doudoune. Génération nourrie aux tacos 8 viandes, sauce Biggie Burger. Il dégoûtait de la life. Mais je me suis pas laissé démonter. Je l'ai fixé droit dans les yeux et je lui ai dit « Oh, il va se calmer le jeune. On peut circuler librement. On est encore dans l'espace Schengen, non ?» Et là, il m'a montré une arme qu'il avait dissimulée sous sa fauche sacoche Vuitton. « Oh, con de témoir, je t'ai dit tes papiers. » D'accord, vous prenez la carte vitale? Ah bah c'est vrai que Marseille, on rigole, hein, mais au-delà de la caricature, c'est une ville de légende qui a connu des pointures du foot. Zinedine Zidane, Eric Cantona, Mitro Glou. Personne connaît le foot, non, ça. La ville est magnifique, hein. Les gens, ils sont formidables. Vraiment, c'est sincère. Et je dis pas ça parce que j'y joue mon spectacle le jeudi 9 décembre, 20h, à l'Espace Julien. Auto-promo. Non, mais j'aime vraiment le Sud. C'est là-bas que j'ai découvert que chaque aliment avait son propre goût. Chez eux, une tomate a un goût de tomate. Bah, vous êtes marrants, vous. C'est des choses qu'on peut pas deviner quand on fait son marché au Lidl de Bobigny. Là-bas, chaque fruit, chaque légume a un goût de Rungis. Alors, je connais pas mal les villes du Sud maintenant. D'ailleurs, j'ai fait mes études à Montpellier. Ouais, fac de sociologie. Enfin, fac de bourse, échelon 5, tu connais tes classiques. Les gens sont tellement sympas là-bas. Je te jure, il y a une douceur de vivre. Les Montpelliérains, ils ont ce qu'on appelle le sens de l'hospitalité. Et vraiment, c'est sincère. Je dis pas ça parce que j'y joue mon spectacle. Jeudi 2 décembre, 20h à l'Odéon. Auto-promo. Merci de m'avoir écouté.
Et tout ça, c'est auto-promo avec la redevance. Bravo, Jamil Lechlag, merci. On écoute l'un des derniers titres de Bernard Lavilliers.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort. Celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Selon Bernard Lavillier, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. Suzy Morgenstern est avec nous. Elle publie Soutif, un très joli roman jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse. Juliette Arnaud, vous avez une question pour Suzy.
Oui, Suzy, comment vous êtes passée d'écrire une thèse sur Philip Roth, qui est un auteur merveilleux, mais très très adulte, très cru, très sexuel, spécialiste quand même de la masturbation, à écrire pour les enfants?
Je crois que j'ai reconnu mes limites. On était nés dans le même hôpital à Newark, New Jersey. On a eu les mêmes biberons. Et dans le sien, ils ont mis beaucoup de talons.
Oh non!
Et
oh non.
Dans le mien, ils ont mis des moyennes.
Mais non.
C'est comment je suis passée? Je savais quand j'ai fini ma thèse et que j'avais fait toute cette recherche que je voulais pas passer ma vie à faire de la recherche, à faire la critique littéraire. Et j'ai cherché la liberté et en même temps, j'étais maman et ça m'a beaucoup inspirée pour écrire d'abord pour mes enfants puis pour les autres enfants. C'est comme ça que je suis allée de Philip Roth à Bisounours.
Et lui, elle est née dans le même hôpital que Jean Roucas et heureusement, elle fait un studio. C'est Guillaume Meurice.
Oui, je voulais vous parler de Nicolas Hulot aujourd'hui. Il y a une petite actu Nicolas Hulot en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a des femmes qui s'expriment, il y a ses soutiens qui paniquent, suite donc aux accusations d'agression sexuelle et de viol et à son comportement sur BFM TV. Quelle honte, vous avez vu ça? Un pendentif queue de baleine, quand même, en 2021, sans déconner. Parfois, terrible. Image terrible, hein, on peut le dire. Et il y a aussi son axe de défense, bien sûr, qui est sans surprise. Entre guillemets, voilà, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est des féminazies. Elles ont été radicalisées par Juliette Arnaud. Ajoutez à ça un truc du genre, pourquoi j'aurais eu besoin de violer alors que j'ai un physique d'Apollon? Apollon, ouais. Qui, je précise, a violé hein, Dryope, ce qui a engendré Amphisos, mais on n'est pas là pour cancel toute la mythologie grecque, parce que sinon, pour une émission de 4 heures, c'est tellement incestueux que le Nord-Pas-de-Calais à côté, c'est oui-oui chez les eunuques. Non, là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on peut élaborer une vraie défense de Nicolas Hulot avec l'opinion publique. Voilà, parce que l'opinion publique, bah moi j'aime bien, hein, j'aime bien aller la voir, par exemple cette dame.
Si je voulais porter plainte, j'aurais porté plainte au moment.
Pourquoi ils ne l'ont pas fait, à votre avis?
Eh bien, voilà. C'est peut-être, comment vous dire, peut-être, elle croyait avoir quelque chose de lui. Comme elles n'ont rien eu, elle porte plainte contre lui. Voilà.
Ce serait de la jalousie, alors?
Ah, pour moi, c'est à 100%.
À 100% de la jalousie?
Ah, ben oui.
Alors là, ça voudrait dire que ce serait Nicolas Hulot, la victime?
Pour moi, c'est une victime.
Voilà. Et eh ben voilà, un bon axe de défense, c'est des femmes qui étaient amoureuses de Hulot, mais il ne peut pas être partout, le pauvre. Vous imaginez un petit peu, Nico, il devait aller sauver le monde en ULM, vendre du shampoing. Faut se mettre à sa place. C'est un gars qui avait un emploi du temps, c'est pas le nôtre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Et le but, c'est d'apaiser la société, parce que là, je trouve qu'on en fait trop.
Ouais, je crois qu'on en fait trop, hein. Et puis, est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose à gratter?
Qu'est-ce qu'il y aurait à gratter?
Bah, des fois, gagner un peu d'argent, bah, facilement.
Hein. Voilà. Les femmes en question?
Oui.
C'est ça qu'on dit pas. Ça se trouve, derrière tout ça, il y a une mafia. Tout ça, c'est du pognon, bien sûr. Toutes les femmes soi-disant victimes d'agressions sexuelles roulent en Porsche. Coïncidence? Je ne crois pas. Il y aurait peut-être quelque chose un petit peu à gratter. Les femmes qui ont accusé Hulot ou PPDA, hein, d'ailleurs, elles font partie d'une action coordonnée. On peut appeler ça le réseau Podzob, si vous voulez. Hein, on connaît. Et non seulement c'est coordonné, mais maintenant, la lutte féministe, c'est devenu quoi?
Maintenant, c'est devenu complètement extrémiste. J'ai entendu hier, il n'y a pas longtemps à la télé, que embrasser une fille sur la bouche, si elle n'est pas consentante, c'est pénalement condamnable. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, je vais dire?
Parce qu'embrasser quelqu'un sur la bouche, non, c'est consentement, c'est pas grave pour vous?
Non, c'est pas grave.
Par exemple, là, si je vous embrasse sur la bouche tout de suite?
Bah, je suis pas homo, hein.
Ah oui, non. Ça, c'est vrai que les agresseurs sexuels prennent toujours bien le temps de demander avant l'orientation sexuelle de leur victime. Ça, c'est la règle de base. Hein. C'est la convention du Sofitel de New York. Enfin, c'est un truc, il y a des codes quand même. On ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, le code pénal, quant à lui, lui, c'est n'importe quoi.
C'est des règles extrêmes. Je veux dire, caresser la jambe d'une femme. Et évidemment, le consentement, c'est toujours. On ne sait jamais où est la limite.
Bah, si elle dit oui, c'est si, oui. Et
si d'accord,
elle dit
non, mais c'est non. Pas si simple que ça. Parce qu'il y a une époque, on disait, ah oui, elle dit non, ça veut dire oui.
Parce que c'était pas complètement con comme phrase.
Pas forcément.
Oui, d'ailleurs, pas forcément. Parce que c'est subtil, l'agression sexuelle. C'est pas un truc qui est donné comme ça au premier venu. Il y a des écoles, ça s'enseigne. Il y a la Jean-Luc Lahaye Academy. Voilà, c'est un BTS en 2 ans, c'est une formation. C'est de la pédagogie. Donc il faut se calmer, parce que bon.
Je pense quand même qu'il y a des problèmes plus graves à l'heure actuelle que l'attitude sexiste des hommes, oui, oui.
Là, c'est des agressions sexuelles.
Oui, oui, semble-t-il. Ben, je pense que c'est devenu une mode. Alors maintenant, voilà, on va sortir des trucs comme ça.
Qu'est-ce que vous appelez une mode ?
Bah, le wokisme, quoi.
Ah, j'avais pas vu venir. J'avais pas vu venir le wokisme. Oh, l'enfoiré, il est toujours là, le wokisme. Hein. Oh là là. Et on n'en parle pas assez, j'ai l'impression, en ce moment, du wokisme. Je vous rappelle que pour le combattre, il faut une gousse d'ail et un poster de Jean-Michel Blanquer. Mais il faut être vigilant. Il est partout, le wokisme. Notre invité, Suzy, vous avez écrit Papa au piquet. C'est ça, ça commence là, le wokisme. Hein. Ou quelle est la télé, qui est une tentative honteuse de censurer Cyril Hanouna. Je vous vois venir. L'heure est grave. Ce monsieur a bien raison d'avoir peur, d'autant que bon.
Moi, je faisais de la chirurgie.
Ouais.
Et quand on voulait m'emmerder, on disait que j'avais un comportement inconvenant avec les dames.
Mais ça veut dire quoi, inconvenant ?
Des paroles, des allusions, des choses comme ça, quoi.
C'était vrai ?
Ben non, bien sûr, enfin, pas... Non, non, non.
Ben non ou non, enfin pas...
Non, 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 enfin, pas pour moi. Non.
Ah voilà, voilà, c'est ça, pas pour lui. Oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre, pas pour lui, c'est une question de point de vue. Voilà, faut remettre les choses dans leur contexte et dans leur époque. Par exemple, pour Marlène Schiappa, avant Nicolas Hulot, c'était Don Juan, aujourd'hui c'est Guy Georges. Vous voyez, les choses évoluent. Mais ce qu'il faudrait quand même, c'est une vraie action du ministre de l'Intérieur en matière de violence sexuelle. On peut lui faire confiance, au moins là, je crois qu'il connaît bien son sujet.
Guillaume Meurice, wow. Merci. Bah waouh, ouais. Bah là, ce que je commence bien hein, avec...
Voilà, voilà.
Ouais, avec pas mal,
les
pas
gens.
Mal. Avec les gens, hein, c'est ça le problème. Hein, c'est les gens. Suzy Morgenstern est avec nous. Juliette, vous avez un thème à lui soumettre.
Demain, avec Joséphine Baker, il y aura 6 femmes sur 75 panthéonisées, soit 8%. C'est pas lourd. En même temps, la devise au-dessus de l'entrée principale du Panthéon ne prend personne en traître. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Disons que Joséphine Baker, avec son identité multiple... Noir, femme noire, immigrée, artiste, est un genre de mot compte triple. La fête sera à l'avenant et c'est Emmanuel Macron qui s'occupe de tout.
Pour la déco, j'ai une idée, mais alors aussi très très inventive. J'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépon orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les mignardises. On oublie aussi les mignardises. À la place... Compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Tout ça servi dans des gobelets avec des... Comment ça s'appelle, les petites...
Des langues de chat.
Voilà, des langues de chat. Et servi à la louche. À la louche. Hein, c'est assez inventif, ça.
C'était le film Sens de la fête, un film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Et évidemment, c'était le regretté Jean-Pierre Bacri. Joséphine Baker, Suzy Morgenstern... Deux exilés des États-Unis qui sont arrivés très jeunes femmes en France et qui n'en sont plus jamais reparties. Est-ce que c'est aussi sous cet angle que vous avez vu arriver cette histoire de Joséphine au Panthéon ?
Mais j'étais sensible, très sensible à Joséphine Baker. Je savais qu'elle n'était pas que la femme aux bananes. Et puis je m'identifie beaucoup à Joséphine Baker. D'ailleurs, Cattell, qui a illustré Soutif, a écrit une BD sur Joséphine Baker. Donc je suis très sensibilisée. Ma question est, est-ce que je vais aussi être enterrée dans le Panthéon?
C'est exactement la question que j'allais vous poser.
Et est-ce qu'il y a un carré israélite dans le Panthéon?
Ah, sûrement. On fera une place.
Mais ça vous touche que ça soit aussi... Elle est, bien sûr qu'elle était française, mais elle est d'origine américaine. Ça vous touche, cette idée?
Je suis très fière d'elle. Je suis fière de m'identifier à Joséphine Baker et je m'identifie totalement. J'ai aussi deux amours, l'Amérique et Paris. On a beaucoup de, il y a beaucoup de similarités entre nous.
Demain, les enfants noirs français vont voir la République entière célébrer une femme noire qui rentre au Panthéon. Vous, quand vous étiez jeune, c'était le premier personnage juif de la littérature de jeunesse américaine, qui était une petite fille qui s'appelait Marjorie Morningstar. Vous êtes d'ailleurs devenue épouse Morgenstern. C'est important, la représentation, d'avoir quelqu'un, ou dans la fiction, dans la réalité, qui prend le devant de l'affiche.
Très important. Moi, je suis souvent dans les écoles, dans le neuf-toits. Je suis pas vraiment représentative de quoi que ce soit. Mais oui, à Marseille, dans une classe, un enfant m'a apporté une petite enveloppe et il a dit surtout, ne l'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas. Quand vous êtes dans votre hôtel ce soir, vous pouvez l'ouvrir. Alors, j'ai ouvert. C'était une enveloppe. Et puis, tout au bout de la dernière enveloppe, il a écrit, moi aussi, je suis juif.
Oh, mon minou.
Et donc, ma venue avait vraiment un sens et une importance, comme Joséphine Baker pour les enfants noirs.
Jolie histoire, Suzy Morgenstern. Et d'histoire, pourquoi pas sous forme de cinéma, pour écouter Léo Carman.
Be careful what you wish for, Corvette.
Salut tout le monde. Alors, l'extrait que vous venez d'entendre est tiré du premier trailer de Spider-Man No Way Home, prévu pour sortir au cinéma en France le 15 décembre prochain. Ce trailer détient le record historique du nombre de vues le jour de sa publication, 355 millions. 355 millions de vues en 24 heures, c'est quasi 15 millions de vues par heure, 250 000 par minute, 4 000 vues par seconde, 1200 par clignement d'œil, si on s'accorde à dire qu'un clignement d'œil dure environ 0,3 secondes. Pour comparer à quelque chose qu'on connaît mieux, en ordre d'idée, ça correspond à la vitesse à laquelle Bill Gates s'enrichit, 1200 balles par clin d'œil. On le compte comme ça.
Oui, en effet.
Alors que le thriller est du succès, ça n'a rien de surprenant non plus. Spider-Man a toujours cartonné au cinéma, et ça depuis sa première adaptation en 2002 par Sam Raimi, qui était un modèle de scène. De construction, de métaphore, il venait répondre aux peurs adolescentes, celles du corps qui change, du regard des autres, de la confiance en soi, mais aussi au fantasme, ce d'être un héros, d'avoir un secret incroyable, de pouvoir filer par sa fenêtre pour parcourir le monde. Mais après 7 autres films, pourquoi y a-t-il un tel engouement pour ce 8e film Spider-Man en particulier? Parce que pour la première fois dans le cinéma Marvel va être introduit le concept de multivers. Alors, avant que les puristes ne me tombent dessus, je précise que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce concept a déjà été utilisé dans une de leurs séries, Loki. Mais disons que c'est la première fois qu'il est assumé dans un film d'une aussi grande ampleur. Qu'est-ce que le concept de multivers? Les grands enfants que nous sommes diront que c'est l'existence de plusieurs univers parallèles dans lesquels se sont déroulés en même temps cette fameuse histoire qu'on aime tous tant, celle de Peter Parker, transi de Mary Jane, devenant Spider-Man, vengeant son oncle et sauvant des centaines de citoyens de dangereux criminels. Et les grands adultes que nous sommes diront que c'est une manière pour Sony de se justifier d'avoir adapté plusieurs fois la même histoire avec des acteurs et réalisateurs différents pour garder les droits de la franchise. Quoi qu'il en soit, Spider-Man No Way Home compte proposer une nouvelle histoire qui mélange les protagonistes de ces univers parallèles. Alors, je précise, avant que les puristes ne me tombent dessus, qu'à l'heure actuelle, seuls les méchants de la première trilogie, le Bouffon Vert, Docteur Octopus et l'Homme Sable, sont officiellement de retour, mais que, évidemment, c'est l'espoir de revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield réenfiler le costume en même temps que Tom Holland, l'actuel Spider-Man, qui nourrit l'excitation de la Spider-communauté. Mais pourquoi est-on si excité à l'idée de revoir, à l'idée de rester dans ce qu'on connaît? Quand j'étais petit, je pouvais regarder 10 fois la même cassette Disney dans la semaine. J'insistais même pour rembobiner les pubs qui précédaient le film. Tellement, elle aussi, de les connaître par cœur, ça me rassurait. Ce confort, ce sentiment de sécurité à suivre les algorithmes Netflix, le fameux « puisque vous avez aimé, vous aimerez », à revivre les histoires qu'on connaît, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on se cachait derrière les jambes de nos parents pour regarder que ce qu'ils nous laissaient voir. Mais est-ce que justement, on ne pourrait pas être un peu rebelle et se lever la nuit pour regarder autre chose en cachette? Ou mieux, pour raconter nous-mêmes de nouvelles histoires avec de nouveaux modèles, où on réinvente ce qu'est être un héros, ce qu'est un ennemi, ce qu'est un trésor, et même pourquoi pas, où on repense ce qu'est réussir, ce qu'est être heureux, ce qu'est une démocratie. Peut-être même qu'avec ces nouvelles histoires, on aurait une nouvelle fin, hein, moins catastrophe, moins fermée, plus optimiste. Mais en attendant, j'irai voir Spider-Man No Way Home. Déjà parce que j'ai largement contribué aux 355 millions de vues du thriller. Mais surtout parce que, quoi qu'on se dise, dans cette réalité ou dans une autre, on n'est pas à l'abri d'un bon film. December 17th, exclusively in movie theater. Tickets on sale November 29th.
Spider Monday. Spider Monday. Okay. Merci Léo Carman pour cette chronique cinéma en compagnie de Suzy Morgenstern. On va aborder ce dernier thème. La lecture serait la bête noire des élèves de 6e, presque autant que les maths. En tout cas, la moitié des élèves ne lit pas de façon fluide. C'est un résultat qui est obtenu après un test de fluence. C'est-à-dire qu'il faut lire 120 mots en une minute selon l'éducation nationale. Et là, 50% des élèves de 6e échouent. Heureusement, la lecture a été décrétée grande cause nationale par le président de la République. C'est foutu, donc. Et plus tard, ça fera des adultes qui sont pas dans l'affluence, quoi.
Qu'est-ce que tu lis, maman ?
C'est le roman que m'a conseillé Madame Bricourt, là, tu sais bien.
Et t'en es qu'un là ?
T'as raison. Après tout, on dira que j'en suis là. Pour rien, pour Sophie, à coucher avec tout le monde, un coup Socrate, un coup Descartes, tu comprends rien du tout.
Un extrait du film Le Paris, le film des inconnus. Alors voilà pour ce test où on fait lire aux élèves de 6e 120 mots en une minute pour voir s'ils ont une lecture fluide. Je viens de vous voir faire une grimace.
Je crois que j'échouerai.
Vous écrivez 120 mots par minute.
Je suis lente. Et je prends beaucoup de temps pour lire. Je lirai toute la nuit, mais pas 120 mots par minute, tu vois.
Alors là, on se pose la question, c'est quel est l'intérêt? Parce que lire ou comprendre dans ces cas-là?
Quel est l'intérêt de vitesse là-dedans? Ouais. Je vois, il y a des choses où il faut de vitesse. Est-ce qu'il faut de vitesse pour lire? Est-ce que c'est ça le test à faire? J'ai rencontré notre ministre de l'Éducation nationale et j'ai dit ce que je pensais, mais...
Vous lui avez dit quoi, Jean-Mi?
Mais j'ai dit que encourager les enfants à lire en donnant les fables de La Fontaine à chaque enfant de CM2.
C'est ce qu'il a fait.
C'est très bien de donner un livre, mais les fables de La Fontaine, ça a beau être génial pour nous, peut-être, mais un enfant qui lirait ça... Bon, on peut pas le lire en 120 mots par minute, de toute façon.
Et, ça peut être un peu ardu.
Et j'ai suggéré qu'on donne un chèque-livre aux enfants de CM2 pour aller dans une librairie et choisir un livre. Mm-hmm. Déjà, la démarche d'aller dans une librairie, la démarche de prendre l'habitude d'acheter un livre, ça serait bien. Mais un cadeau de Les Fables de La Fontaine, je sais pas, c'est pas un cadeau.
Mm-hmm. Alors, comme c'est grande cause nationale, il y a quand même, je pense, 60 millions d'euros qui sont investis pour les bibliothèques, c'est-à-dire pour étendre les horaires, etc. Aller en bibliothèque aussi, parce que si on n'a pas de chèque-livre, c'est la
mais
bibliothèque.
Mais les bibliothèques, les médiathèques en France sont merveilleuses. C'est vraiment... c'est pas pour rien que la France est un pays d'exception culturelle. Mm-hmm. Je reviens de Colmar, du Festival de livres de Colmar, et c'est un art français, ces festivals de livres.
Et voilà. Et d'ailleurs, signalons le Salon du Livre de Montreuil, qui s'ouvre mercredi. Et vous y serez, évidemment, Suzy.
Oh, j'y serai tout le temps.
Et je signale aussi que vous êtes marraine des petits champions de la lecture. Et c'est pas ceux qui visent lisent le plus vite. Donc, Suzy. Juliette Arnaud a préparé pour vous un questionnaire de Parjupi Proust.
Pas d'inquiétude, il n'y a pas de Proust. Sur l'échelle des gens les plus célèbres, porteurs de lunettes roses en forme de cœur, 10 étant Elton John, 0 étant Jean-Paul Sartre, pas du tout de lunettes à cœur, à combien vous situez-vous?
10?
Je suis d'accord. L'équivalent d'Elton John minimum. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Suzy, dans la vie? Est-ce que c'est la puberté ou est-ce que c'est enseigner la langue anglaise à des Français?
C'est la vieillesse.
Je m'en doutais un peu. La langue, votre langue maternelle, c'est l'anglais. Votre langue d'écriture, c'est le français. Quelle est votre langue de rêve?
Si je savais.
Vous n'avez pas de souvenir de... Vous ne savez pas dans quelle langue vous rêvez?
Mes rêves sont juste pleins de bouffe.
De la bouffe anglaise ou de la bouffe française?
Américaine.
Du sucre. Je suis du sucre.
Américaine. Ah, mais alors, c'est sucre ou c'est sugar?
Sugar baby.
Voilà, donc c'est en anglais. Et quelle langue pour tomber amoureuse?
Je ne sais pas si c'est langagière. N'importe quelle langue, et même muet.
Et même le silence. Mm-hmm. Avec quel autre écrivain américain qui a passé du temps en France aimeriez-vous repartir en exil? Est-ce que ça serait plus avec Francis Scott Fitzgerald, avec Jim Morrison ou avec James Baldwin?
James Baldwin quand même.
Ouais, ouais. Il devait être assez amusant. Dans votre tête, vous avez toujours 14 ans. Qui autour de la table, à votre avis, n'est toujours pas rentré dans l'âge adulte?
C'est une merveilleuse assemblée, vraiment un privilège d'être parmi vous, qui ont, moi, 13 ans, tous.
On a tous 13 ans.
Une dernière question. Une de vos chansons préférées, c'est Over the Rainbow. Selon vous, qu'y a-t-il au-delà de l'arc-en-ciel?
Du sucre.
Merci Juliette Arnaud. Merci Suzy Morgenstern. C'est nous qui sommes honorés d'avoir passé une heure en votre compagnie. C'était un plaisir. C'était solaire avec des lunettes roses en forme de cœur. Et je recommande Soutif, paru chez Gallimard Jeunesse, illustré par Catel Muller. Et on vous retrouvera donc au salon du livre de Montreuil des mercredis. Merci à tous les amis, c'est la fin de cette émission. Je vous dis demain, pas d'émission, priorité au direct. Nous laissons l'antenne à Joséphine Baker qui entre au Panthéon. Et ça s'appelle comment, ça, de laisser l'antenne à Joséphine?
Le grand remplacement, vous l'assumez.
Voilà. Voilà.